Et voilà, c'est parti pour le numéro 2 du podcast qui est censé parler de typo 3. Au départ, j'avais dit typo 3, mais pas que. Et aujourd'hui, ce sera pas typo 3, puisque je suis avec Lionel, qui est développeur iOS. Et nous allons donc parler principalement d'Apple et des outils, des terminaux et du développement autour d'Apple. Donc, Lionel. On a un petit peu tardé là. J'espère que le resto ne va pas nous endormir et qu'on va savoir un petit peu se reprendre là et puis se réveiller en discutant d'Apple. Alors moi je vais un petit peu t'embêter je pense en parlant d'Android puisque je suis maintenant possesseur d'un téléphone Android. Tu sais que j'ai lâché mon iPhone 3GS. Et donc, je ne vais pas te laisser encenser Apple comme ça. Et donc, il va falloir que tu te défendes ce soir.
Pas de soucis Cyril, et puis ben, merci de me recevoir dans ton émission.
Alors, on a parlé de la WDC, puisque tu étais présent à San Francisco. Et malheureusement, tu as signé un accord de non-divulgation qui va donc t'obliger à te restreindre à ce qui est déjà connu du grand public, mais on va aussi essayer de faire des projections sur l'avenir parce que le sujet qui revient souvent entre nous, c'est mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Ça fait 10 millions d'années qu'on attendait l'iPhone 5, ils nous ont sorti une version améliorée du 4 avec rien de nouveau vraiment, enfin pas de révolution en tout cas comme ça a priori. Là, il y a iOS 7 qui a priori a redonné quand même un coup de neuf et puis a peut-être donné l'impression aussi au possesseur d'un iPhone d'avoir un nouveau téléphone quelque part. Donc ça c'était pas mal. Mais moi je reste un peu sur ma faim donc j'espère que tu vas
Bah écoute, je vais essayer de trouver des arguments pour te convaincre, mais c'est vrai, comme tu soulignes, que Apple rentre dans une phase un petit peu critique. Ça fait maintenant un petit moment qu'ils n'ont pas sorti de produits révolutionnaires. L'iPhone, c'était une vraie évolution, et depuis l'iPhone et l'iPad, on les sent un petit peu en manque de créativité. On pensait notamment pendant le WDC cette année qu'ils allaient annoncer des choses un peu plus spectaculaires que iOS 7.
C'est pour ça que tu t'es battu pour avoir un billet.
Oui, c'est la première année où je participe. À la fin de la keynote, j'étais toujours dans la salle. J'attendais encore le One More Thing habituel qui, malheureusement, n'est pas venu. L'année où je viens, et ça n'a d'ailleurs pas été facile d'y aller, parce que pour la petite histoire, en fait, les billets se sont vendus en 70 secondes. Lorsque j'ai passé commande de ma réservation, je me suis retrouvé avec un petit message erreur serveur, donc sans paniquer, j'ai tenté à nouveau de resoumettre mon formulaire et c'était juste à ce moment-là totalement impossible parce qu'on était déjà au-delà des 70 secondes et tous les billets avaient été complètement vendus et je pensais que bah, ça y est, pour moi, WDC,
C'est fini pour
c'était
toi.
complètement fini. Et en fait, j'ai eu une bonne surprise le lendemain parce que j'ai eu un appel d'Apple États-Unis où la bonne nouvelle est tombée, où on m'a expliqué en fait que ma réservation était bien passée. Donc effectivement, comme tu disais, là, c'est un moment important pour Apple. Et c'est vrai que, notamment lors du WDC, on attendait des annonces un peu plus spectaculaires. Il y a eu un certain nombre de choses assez importantes qui ont été annoncées, on va en reparler. Mais c'est vrai que rien au niveau matériel. Et donc, il y a une phase là d'attente assez forte auprès d'Apple et il y a des arguments, il y a des choses intéressantes qui devraient arriver, mais je suis un petit peu comme toi pour rien te cacher. Je suis aussi un petit peu sur l'interrogation et j'attends de voir, notamment courant septembre, il va y avoir des nouvelles annonces avec
Qui
différents
vont nous
devices.
sortir une révolution comme l'a été l'iPhone où personne l'a vu venir et c'était vraiment un nouvel usage, un truc qui était du jamais vu, qui a changé complètement le quotidien des utilisateurs de téléphone. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous sortir quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est Google maintenant qui a pris la main avec les Google Glass et qui va peut-être garder justement l'espèce de monopole de la créativité de nouveaux usages pendant encore 5-6 ans? On va bien voir, mais ce qui m'étonnait pour revenir sur ton histoire là de réservation, c'est que en ce moment, Apple n'a pas trop la cote niveau discussion entre fanboy, que ce soit Apple ou Android, on a tendance à dire ouais, c'est un peu, c'est mort, il n'y a plus personne qui a l'iPhone 5. Et en réalité, ils se sont jamais fait autant d'argent. Les places sont vendues en un temps record. L'Apple Store, tu m'avais dit, a généré encore plus de profits que d'habitude. C'est assez bizarre de voir que il y a cette image de marque qui change super vite et derrière, il y a encore Apple qui est, je sais pas s'ils sont toujours la société là, qui fait le plus de bénéfices au monde. Il y avait une histoire comme ça, je crois qu'ils avaient.
Oui, ils ont eu des résultats complètement exceptionnels et c'est vrai qu'il faut relativiser le relatif, comment dire, il faut relativiser en fait la perte un petit peu de vitesse qu'on ressent de la part d'Apple dans la mesure où ils sont arrivés à un niveau tellement élevé que c'est vrai que c'est parfaitement compréhensible qu'à un moment donné, on ait du mal à rester en haut de la pyramide. En tout cas, les résultats pour Apple sont clairement exceptionnels d'un point de vue financier, et la keynote d'ailleurs a commencé par des annonces de chiffres effectivement très spectaculaires
Hallucinant,
sur un nombre de développeurs qui croît constamment, sur je crois qu'on a atteint 50 milliards de téléchargements, c'est complètement astronomique, on peut même pas se représenter ce
ouais.
que ce chiffre indique. Et donc les chiffres effectivement sont juste top pour Apple, mais l'attente du public, et c'est complètement légitime, et extrêmement élevé, parce qu'Apple nous a habitués ces dernières années à des appareils époustouflants. Et du coup, c'est vrai que on reste un petit peu sur notre faim, c'est compréhensible. Et on a globalement le sentiment que Apple est en perte de vitesse, mais tu fais bien de souligner que Apple est loin d'être dans le rouge et qu'il nous réserve beaucoup de surprises, sûrement dans les prochains mois ou les prochaines années encore, ils ont beaucoup de marge, je pense.
Et j'ai l'impression qu'il y a un cycle aussi avec ces grosses sociétés, c'est tant que tu es la petite boîte créative, tu as t'as le succès et tu emportes l'adhésion de tout le monde, et dès que tu deviens la grosse boîte qui a du succès, tu commences à être détesté par tout le monde, c'est un peu le syndrome Microsoft, quoi. Ils ont tellement dominé la planète informatique que pendant un moment tout le monde les détestait, et là ils ont réussi. En fait, je pense en faisant tout pour que ce soit Apple qui prenne la casquette de grand méchant loup, à redevenir la boîte qui crée des trucs sympas, qui est orientée vers l'open source. Et puis maintenant, c'est Apple, les gros capitalistes pourris qui font du fric. Et ils ont été très forts là-dessus, je trouve, parce que pour que Microsoft redevienne sympa, c'était pas gagné d'avance. Et je suis allé à une conférence Microsoft. Pour justement parler de l'intégration de TYPO 3 dans le cloud de Microsoft, Azure Cloud. Et j'ai halluciné de voir les représentants de Microsoft en t-shirt avec la barbe, hyper décontractés, avec des t-shirts hacking, open source, machin. Et tu sentais vraiment qu'on était loin de cette image de l'ingénieur en costume qui est un peu antipathique. Je pense qu'ils ont clairement identifié ce qui avait causé leur côté détestable, et ils ont réussi à lutter contre ça. Et à mon avis, Apple a largement le temps de faire profil bas, de peut-être laisser passer l'orage et de revenir dans un moment avec un truc époustouflant et de regagner à nouveau l'adhésion du public.
Tout à fait, mais je pense aussi qu'il y a un autre aspect qu'il faut prendre en considération, c'est la disparition de Steve Jobs, qui, au-delà du génie du personnage que personne ne conteste, il y a, après un départ pareil, une restructuration au niveau de l'entreprise qui est forcément impactante, et je pense que ça n'a pas dû être simple au niveau d'Apple pour justement prendre le relais. Et on le voit bien, hein. On voit qu'il y a des tentatives qui ont été faites, qui n'ont pas forcément fait l'unanimité, et on sent que là
Tu
les.
penses à quoi là, par exemple?
Il y a un tas de choses dont on va parler, notamment dans iOS 7, mais ce que je me dis simplement, c'est que ça n'a pas dû être évident en interne de prendre la relève d'un tel de Steve Jobs, et du coup faut voir que enfin c'est un aspect qui est pas négligeable, et je pense que ça peut expliquer aussi le ralentissement qu'on ressent de la part d'Apple, parce que ils étaient arrivés à un stade en fait où ils étaient juste au top de la pyramide, attendu forcément au tournant, et là le génie qui a construit le succès qu'on connaît disparaît, et du coup ça aurait déjà été compliqué en fait de rester au sommet, même avec la présence, je pense, de Steve Jobs. Mais sans Steve Jobs, il se trouve que c'est sans doute encore une mission beaucoup plus complexe.
Il va y avoir un gros relâchement des sphincters quand même à Apple quand Steve Jobs est mort, parce qu'apparemment, il mettait la pression à tout le monde. Donc là, il y a dû avoir une espèce de relâchement général où tout le monde a dû dire « Ah, ça y est, on va peut-être pouvoir souffler un petit peu, se reposer un petit peu. » S'il n'y a plus personne à la barre qui vient mettre la pression, je ne sais pas trop ce que ça va donner, quoi.
Bon, je pense qu'ils ont quand même de la pression en interne, mais on peut se poser en tout cas la question de savoir si effectivement, ben, ce n'est pas simplement Steve Jobs, le vrai génie qui a amené les résultats qu'on connaît, et que du coup, maintenant qu'il n'est plus là, ben, Apple reprend le rythme d'une société plus traditionnelle, et qu'effectivement, ce n'est pas si évident d'être toujours au sommet de l'innovation. C'est une question en fait qu'on est en train tous de se poser, je pense.
Mais Steve Jobs, sachant qu'il n'était pas bien, à mon avis, il a dû quand même préparer un petit carnet avec déjà des prototypes, des idées pour les 10 années à venir, non ? Je pense qu'il n'est pas parti comme ça sans aucune idée, sans aucun concept. Parce que si tu regardes bien, l'iPhone, il est sorti il y a un petit moment déjà, je ne saurais pas trop te dire. C'est quoi, c'est 2000 2005,
ça fait, comme ça fait ouais, à peu près 5 ans, je pense, si je dis pas de bêtises. Ouais.
La première version de l'iPhone
L'iPhone, oui, ça doit faire à peu près 5 ans. Ouais.
Depuis ce temps, il n'y a rien eu de révolutionnaire. Il y a eu l'iPad qui était une déclinaison de l'iPhone, des iPhones plus ou moins puissants qui sont sortis, mais je peux pas croire qu'il n'ait pas eu le temps de réfléchir à autre chose et déjà de poser des concepts. Ou même déjà démarrer la R&D sur d'autres devices, quoi.
Ouais, ils ont sans doute un tas de choses en réserve, hein, ça c'est sûr. Mais après, entre avoir des choses en réserve et avoir la capacité de les exploiter, de les matérialiser, je pense que ça faisait partie aussi du génie de Steve Jobs, qui arrivait quand même à
rendre réel des concepts, quoi.
Tout à fait. Puis il y a certains signes en fait qui sont des indicateurs qui peuvent potentiellement montrer que les choses évoluent. Mais par exemple, l'iPhone, ce qui a été une des composantes du succès de l'iPhone, c'est que pendant 5 ans, ça a été un projet complètement masqué au reste du monde. Et pendant 5 ans, rien n'a filtré à l'extérieur d'Apple sur ce projet-là. Et l'iPhone, du jour au lendemain, est apparu comme un appareil totalement novateur et qui venait vraiment de nulle part. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce culte du secret n'est pas aussi efficace qu'avant. Et on se rend bien compte qu'avant les keynotes, il y a un certain nombre de choses qui arrivent à passer à travers les mailles du filet. Mmh. Et finalement, la keynote a moins l'effet de surprise qu'on avait avant. Et du coup, ce qu'on peut se dire simplement, c'est qu'effectivement, bah, cette mécanique que Apple avait avant est plus tout à fait la même aujourd'hui. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être que c'est sans doute, d'ailleurs, c'est plus difficile sans
Steve Jobs. Parce que maintenant, tout le monde veut savoir, alors qu'avant, on ne se doutait pas qu'il allait y avoir quelque chose qui allait sortir. Donc, les personnes qui cherchaient à savoir. Maintenant, je pense qu'il y a des mecs dont c'est le métier d'essayer de s'infiltrer. De trier les poubelles, de se cacher dans les toilettes, d'écouter les conversations. Il y a d'ailleurs des gars qui vivent que pour ça, ou qui passent une bonne partie de leur temps à essayer d'attraper des bribes d'informations, oui. D'extorquer des...
Oui, peut-être.
J'imagine. Alors bon, sinon, donc, la WDC, tu peux rien nous dire, ou il y a quand même des choses...
Si, il y a des choses dont je peux parler. C'est vrai que globalement, tous les développeurs sont soumis à des accords de confidentialité, et malheureusement il y a des sujets très passionnants que je peux pas aborder, mais globalement
Bonne nuit à tous,
bonne nuit, merci. Non, mais globalement il y a un tas de choses qui sont sans doute connues de tout le monde, mais qui sont assez intéressantes à voir. En fait, il y a plein de sujets, notamment l'arrivée d'iOS 7 qui est qui est un vrai changement. Et donc on y adhère ou pas, parce que c'est vrai que le sentiment global des gens est un petit peu mitigé, mais en tout cas c'est un vrai changement qui va modifier pas mal de choses.
Niveau device, on n'a pas vraiment, enfin j'ai l'impression même que les devices iPhone deviennent presque moins attirantes que les devices Android pour le grand public, en tout cas à cause du prix principalement. Parce que j'ai l'impression que niveau hardware, je sais pas, moi je suis partagé. Tu vois, là j'ai mon Nexus 4. Je sais pas si tu as ton iPhone 5 à côté de toi. Juste un de tes iPhone 5, pardon. Voilà. C'est vrai que tu montres au grand public, d'un côté, tu as un énorme écran et ça vaut 350 €. Là, tu as un petit écran, ça en vaut 700 ou 800, je sais pas. C'est super cher, quoi, l'iPhone 5. Dur de convaincre, quoi. Après, tu as tous ceux qui ont le forfait qui permet d'avoir le téléphone pas cher, voilà, ils peuvent se permettre, mais sinon, assez difficile. Cependant, j'avoue qu'il y a quand même des trucs aberrants sur mon Nexus qui me gênent un peu au quotidien. Par exemple, et je ne l'ai pas vu dans les tests, c'est-à-dire que j'ai lu pas mal de magazines qui encensaient, voilà, fantastique, le hardware, quelle qualité, etc. Je trouve qu'à côté d'un iPhone, on est encore loin quand même de l'ergonomie d'un iPhone. Par exemple, un truc complètement stupide, le haut-parleur qui est derrière le Nexus. Donc en fait, tu poses ton Nexus sur la table, tu n'entends rien. Et si tu le mets de l'autre côté, tu vois plus l'écran. Donc, je sais pas qui a eu la brillante idée de faire ça. Je sais pas si on peut breveter de mettre l'écran sur la tranche comme ça existe sur l'iPhone, parce que là, franchement, faut qu'on m'explique, quoi. Je pense que tu réfléchis 5 minutes autour d'une table, même avec une bière un peu forte, tu peux pas mettre décemment le haut-parleur à l'arrière du téléphone. Ça paraît juste complètement stupide.
C'est amusant parce qu'effectivement, l'évolution du mobile est plein de petites anecdotes de ce type-là. On se souvient par exemple de l'iPhone avec le problème d'antenne qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et c'est vrai que ce qui est amusant de noter, c'est que le problème d'antenne était passé complètement inaperçu aux équipes d'Apple, tout simplement parce que, à cause du culte du secret, les bêta-testeurs sortaient dehors avec une coque qui protégeait complètement le téléphone et du coup qui empêchait l'utilisateur de toucher directement l'antenne.
D'accord.
Et du coup, bah, toutes ces phases de bêta-test ont complètement occulté ce problème d'antenne. Et ce qui est amusant de constater, c'est que finalement, qu'on s'appelle Apple ou Android ou Samsung, on n'est pas à l'abri de problèmes comme tu le montres.
Ouais, en fait. Après aussi, un autre truc qui me dérange, c'est que le bouton on-off est sur une tranche et le bouton volume sur l'autre, alors que sur l'iPhone, le bouton on-off est sur le dessus du téléphone. Et donc, quand tu vas chercher ton téléphone à l'aveugle dans une poche intérieure de manteau, ce qui est quand même un endroit à peu près, je pense plutôt souvent utilisé pour un téléphone, difficile au toucher de savoir si tu es en train d'appuyer sur le bouton on-off ou sur le bouton volume. Et vu que le casque aussi, j'en ai pas parlé, mais le casque qui est livré avec le Nexus par exemple est très très loin des casques iPhone, en fait t'as qu'un petit bouton on-off dessus, tu peux pas régler le volume, alors que sur celui de l'iPhone tu peux faire volume on-off et aussi précédent suivant en faisant un double clic rapide. Mais du coup, souvent tu éteins ton téléphone ou tu le mets en veille au lieu d'augmenter le volume, et c'est pareil, je trouve pas ça très malin, sachant qu'en plus il y avait la place pour mettre le bouton aussi sur le haut, quoi. Donc voilà, bon.
Non, mais c'est vrai que c'est des petits problèmes ergonomiques, mais au global, je trouve qu'on a de la chance parce que le fait d'avoir Apple, Samsung, Android, Google et les autres, au final, ça représente une concurrence et une guerre. Donc on s'en
positif,
rend,
quoi,
qui est positif pour le consommateur, en fait.
Ouais.
La concurrence fait le marché et au global, ça pousse les produits vers le haut. C'est vrai que je pense que ce secteur-là serait beaucoup plus triste s'il y avait qu'Apple, en fait. Et après, ben, c'est parfaitement logique qu'il y ait des petits soucis ergonomiques parce que la concurrence est telle que les fabricants doivent innover et doivent tenter des choses.
Ouais.
Et du coup, ben, forcément, on peut passer à côté de petites choses, c'est complètement humain, quoi. Mais,
bon, sinon, est-ce que tu as des petites choses sympas là, récemment, que tu as découvert sur Apple, ou des domaines de recherche sur lesquels tu as travaillé, ou des choses que tu aimerais partager qui sont intéressantes?
Oui, bah, notamment on peut parler un petit peu du WWDC et des annonces, parce que c'est vrai qu'il y a des choses assez intéressantes qui ont été présentées. Ben, y a une première nouveauté qui est iOS 7 et qui pour le coup va pas mal modifier nos habitudes parce que iOS 7, c'est avant tout une interface graphique complètement repensée, un système d'exploitation vraiment différent de celui qu'on a l'habitude de connaître en fait. La différence, elle se situe notamment au niveau de la simplification des composants graphiques. L'idée, c'est pour Apple de présenter un système où le contenu devient roi. C'est-à-dire qu'avant, on avait des barres, des petites statues barres en haut et en bas de l'écran qui avaient tendance à prendre beaucoup de place. Et la direction d'Apple, le pari aujourd'hui, c'est de dire que ben, on se débarrasse un maximum de ces éléments, on les simplifie et on essaye de mettre le contenu plus en avant parce que finalement, c'est le contenu qui importe le plus.
J'aime bien ta façon de voir ça parce que j'ai dû écouter au moins 3 podcasts qui parlaient alors, en direct de la WWDC, après en débrief et puis une semaine après. Et il n'y a personne qui a eu cette analyse-là d'iOS 7. Moi, j'ai beaucoup entendu parler des bords un peu plus arrondis, du côté un peu tutti-frutti, acidulé des icônes. Mais en fait, il n'y avait pas cette vue-là qui est un peu plus profonde, je trouve. Et c'est vrai que c'est le flat design, non ? C'est ça, la mode un peu là qui...
Mais ça va un petit peu au-delà. Le pari d'Apple, il va au-delà simplement de cet effet de mode qu'on appelle le flat design. Le vrai sens en fait de la modification du système d'exploitation, c'est justement le contenu qui doit prendre plus de place. Et le flat design, c'est une solution qui permet justement de simplifier les composants et de laisser un peu plus de place au cœur d'une application. Et donc ça, c'est le nouveau pari d'Apple qui est pas sans risque en fait, parce que c'est une modification graphique qui est importante. Mon feedback au global, c'est j'ai le sentiment qu'il y a à peu près 50% de personnes qui adhèrent à ce nouveau design et 50% qui sont pas du tout convaincus et qui trouvent que le graphisme est trop simple, voire même dans certains cas assez moche en fait. Donc ça, c'est déjà un événement en soi parce que jusqu'à présent, Apple, en tout cas le système d'exploitation, faisait quasiment l'unanimité. Ça suscitait pas autant de débats que maintenant et c'est déjà un premier changement qui ne va pas forcément
c'est
être...
C'est bien de montrer enfin, c'est bien de la part d'Apple de prendre un peu de risque parce que ces dernières années, ils ont tout fait pour maintenir tout en l'état et surtout pas prendre de risque. Rajouter des petites fonctionnalités qui ne risquent pas de perturber l'utilisateur. On va rajouter des pixels sur l'écran, mettre une caméra plus puissante, rajouter de la mémoire, des trucs comme ça. Rien de fondamental. Et là, d'un coup, nouvel OS, c'est assez... c'est assez inhabituel quand même de leur part depuis quelques années précédentes.
Tu as raison de souligner que c'est un vrai risque. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette énergie qui a été fournie pour... Est-ce qu'en fait, c'est la bonne direction pour Apple ? Je ne suis pas forcément convaincu que la refonte du système d'exploitation... c'est pas forcément... L'histoire va nous dire si c'est la bonne direction ou pas, mais en tout cas... il aurait pu y avoir potentiellement d'autres pistes d'évolution. Moi, par exemple, j'avais comme attente d'évolution au niveau matériel. Parce qu'aujourd'hui, ce que je pense, c'est que ce qui fait la révolution d'un appareil mobile, que ce soit Apple ou que ce soit Android, c'est la convergence en fait, d'un appareil mobile avec différents capteurs. Le fait d'avoir un capteur GPS, d'avoir une boussole, d'avoir une connexion continue à Internet, c'est cette convergence en fait de ces différents matériels qui permet des usages qu'on ne pouvait même pas imaginer jusqu'à présent.
Il y a des thermomètres aussi maintenant dans le téléphone.
Et des thermomètres
aussi. Ça ouvre aussi les nouveaux usages.
je détaillerai pas.
C'est peut-être pour ça qu'ils aiment bien garder une taille assez modeste.
C'est ta vision, Cyril. mais tu vois, par exemple, des applications comme Shazam.
Ouais.
C'est des applications qui étaient juste complètement inimaginables il y a quelques années. Ce qui fait qu'un Shazam est possible aujourd'hui, c'est parce qu'on a un téléphone, un ordinateur, qui est constamment connecté à Internet, qui a des composants matériels suffisamment sophistiqués pour analyser un son, en créer une signature, et puis faire l'application qu'on connaît. Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait, il y aurait pu y avoir une autre direction de la part d'Apple qui aurait pu consister en fait à rajouter d'autres capteurs justement pour pouvoir provoquer des usages auxquels on ne pense pas aujourd'hui. Ça aurait pu être un parti pris et une direction possible. Là, le changement, il est plus logiciel à moins que dans 10 jours, il y ait d'autres annonces qui soient faites, ce qui n'est pas non plus impossible. Mais c'est vrai que le changement de l'interface graphique, c'est un vrai risque. Et est-ce que c'était indispensable? Je ne sais pas. Il y avait sans doute un phénomène de lassitude. Au bout de 5 ans, je pense que tout le monde en avait un petit peu assez d'avoir tout le temps les mêmes graphismes.
Et surtout qu'avec avec Android, tu commençais à avoir des systèmes d'exploitation qui devenaient plus ergonomiques et plus puissants qu'iOS, et ça commençait à devenir un vrai problème. Moi, après quelques mois d'utilisation de mon Nexus, revenir sur un iPhone avec un seul bouton central pour tout faire, ça m'a un petit peu gêné, quoi. Là, j'ai vraiment cette capacité à faire du multitâche en un clic et à choisir l'application qui reste ouverte que je veux reprendre. Le fait de devoir double-cliquer pour ouvrir la possibilité de choisir les applications, ça devenait un peu lent, un peu long, et là, à mon avis, iOS 7 n'a fait que remettre iOS au niveau d'Android, niveau ergonomie en tout cas.
Alors c'est aussi un point important là que tu soulignes, c'est qu'iOS 7, finalement, sur ce que tu dis, copie en quelque sorte la direction qui a été prise par Android. Mmh. Et ça, c'est un vrai changement. Parce que jusqu'à présent, Android s'adaptait par rapport aux directions que Apple avait prises. Et c'est vrai que iOS 7, c'est aussi un risque dans le sens où maintenant, on a le sentiment qu'Apple suit à la fois des directions prises par Android et aussi Windows, puis Windows Phone. Parce que c'est vrai que le flat design, initialement, vient de l'univers Windows. Donc c'est pas rien en fait. C'est quand même culturellement... un changement
pour de modestie qu'on n'attendait pas d'Apple.
En tout cas, c'est plutôt un aspect négatif par rapport à l'image d'Apple et notamment l'image qu'on a des produits qui sortent depuis plusieurs années. Mmh. Ils avaient vraiment cette position dominante sur le marché mobile et on avait vraiment l'impression qu'ils étaient en haut de la pyramide et que les autres suivaient.
Oui, et c'est surtout assez incroyable de voir Apple se faire un petit peu dépasser par des clones complets de ce qu'ils ont fait, quoi. Puisqu'Android, c'est vraiment... Il n'y a eu aucune recherche au départ, c'était uniquement un clone total d'iOS, quoi. D'ailleurs, quand tu compares les méthodes de navigation, d'ouverture, tout ça, c'est vraiment... Ça reste hyper, hyper pompé, quoi. D'ailleurs, on comprend que Samsung ait perdu son procès face à Apple, puisque... C'est de la copie pure et simple. C'est même incroyable, je trouve, qu'Android ait pu exister en sachant qu'en principe, il y a des brevets qui protègent pas mal de choses. Donc, il y a dû avoir une sacrée guerre de brevets là pour qu'on puisse reproduire comme ça, presque à l'identique, un système d'exploitation. Maintenant, de voir qu'Android a réussi à pousser certains paramètres et certaines solutions ergonomiques assez loin pour que ce soit Apple qui arrive à les copier, c'est un peu un choc, oui, effectivement. Donc là, moi, clairement, j'ai arrêté l'iPhone parce que je voulais acheter l'iPhone 5 et puis quand il est sorti, il ne m'a pas motivé en fait par rapport à son prix. Il n'y avait pas assez d'éléments qui me motivaient pour l'acheter. Mais je retrahirais instantanément Android si jamais Apple se remettait à sortir un device suffisamment novateur pour que je sois conquis, quoi.
Bah écoute, il faut qu'on attende encore quelques jours parce que courant septembre, a priori, il devrait y avoir des annonces. Et j'espère que tu seras convaincu. C'est vrai qu'en tout cas, là, pour le coup, tout le monde les attend complètement au tournant et j'espère qu'ils vont être en mesure de montrer qu'ils ont encore une capacité d'innovation. Enfin, qu'ils ont encore une capacité d'innovation, c'est sûr, mais qu'en tout cas, d'un point de vue interne, le timing maintenant soit bon pour eux, c'est notre question.
À mon avis, ils vont sortir leur PC, leur... comment il s'appelle, leur iMac, là.
Leur montre,
non,
tu veux dire
le Mac Pro, là.
Ah, le Mac Pro.
Oui, voilà. Ouais. Qui ressemble à un cendrier atomique là, le noir là. Ils vont le sortir en septembre a priori vu que c'était une annonce.
Je suis pas convaincu. J'ai pu le voir au WDC. Il y avait un prototype en fait qui était exposé.
Tu vas mourir là si tu dis ça ou...
Non, je pense que là je peux survivre.
Les fenêtres sont fermées, c'est
je
bon.
Je peux survivre. Et enfin mon sentiment, mais c'est purement subjectif. Je suis pas convaincu que ce soit le genre d'annonce qui soit faite dans 10 jours. Non, je pense que là, l'annonce courant septembre, ce sera probablement le nouvel iPhone. Et d'après ce qui se dit...
Le
5S, avec éventuellement plusieurs couleurs différentes, je sais pas. Enfin, c'est un peu les bruits qui circulent.
Encore une annonce complètement décevante. Petit slip. on a rajouté 100 pixels de définition par-ci par-là et puis une webcam sur la tranche.
Bah écoute, c'est possible, ouais. Mais c'est aussi parfaitement possible qu'ils aient trouvé une nouvelle formule qui arrive à convaincre tout le monde. Ça, c'est Apple, c'est un peu la magie. Ouais. On ne sait pas.
Parce qu'alors, il va falloir attendre. On attendait pendant un moment la télé Apple, mais pas la box télé, mais vraiment la télé. Elle n'est jamais sortie, je pense qu'elle ne sortira jamais. Il y a la montre aussi, Apple. Tout le monde s'est fait des films un petit peu en se disant ça y est, ils vont sortir une montre. Visiblement, je pense que même le concept de montre est remis en question en ce moment. Donc, je pense que c'est pas le bon moment pour sortir une smartwatch puisque les gens n'utilisent plus trop de montres maintenant. Donc,
écoute, c'est pas impossible que ça sorte quand même en fait parce qu'il y a différents fabricants qui vont sortir leur propre modèle.
Ouais.
De mémoire, il y a Sony, Samsung. Et
Pebble, j'avais suivi un podcast sur la Pebble justement, mais je ne me suis pas intéressé plus que ça, mais apparemment c'était pas mal. Mais le concept de montre est super vieux, hein, de toute façon, montre smartwatch, il y en a depuis, mais depuis qu'on est capable de, par exemple, de capter la radio, il y avait des montres capables d'afficher la météo, d'écouter des radios FM, des choses comme ça. Et ça date d'il y a 20 ans, hein. Donc c'est pas non plus une révolution, je trouve, la smartwatch, pour moi, c'est extraordinaire.
Faut voir sous la forme, va falloir attendre un petit peu, mais il y a certains instituts d'analyse qui prédisent qu'une sortie d'une montre pour Apple pourrait représenter l'équivalent de 70 millions de ventes la première année, en fait. D'autres qui estiment qu'au minimum ce sera 5 millions d'unités vendues. Donc même si le produit en lui-même n'est pas forcément révolutionnaire, et encore ça reste à prouver parce que ouais. Peut-être qu'il y a sans doute des choses comment dire, qui peuvent être intéressantes sur un concept de montre, mais en tout cas ça représente clairement un business super important pour Apple et Samsung et Sony et les autres, donc rien que pour ça je pense que c'est pas impossible qu'il y ait des modèles qui commencent à débarquer assez rapidement. Et puis en même temps, hein, ça peut aussi être un aspect stratégique, c'est-à-dire que si tous les fabricants commencent à avoir leur propre modèle de montre,
ce serait dommage de ne pas en avoir.
Ouais, c'est ça.
Bon, et alors sinon, niveau actualité, qu'est-ce qui te fait triper en ce moment sur iOS 7? Qu'est-ce qu'il y a des fonctionnalités niveau développeur que tu as creusé, par exemple des API de, je sais pas, de reconnaissance vocale, d'analyse d'images, des choses comme ça.
Il y a des choses sympathiques, effectivement, dans iOS 7 qui ont été annoncées. Alors, il y a déjà un premier point, quand même, qui n'est pas négligeable, c'est que ça représente, pour n'importe quel développeur, ça représente beaucoup de travail, déjà, de s'adapter à la nouvelle version, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a des changements qui sont radicaux, et en même temps, ça signifie aussi qu'il y a une problématique qui est importante, c'est que la migration d'applications iOS standard est aussi un sujet en soi complexe. Donc pour moi, aujourd'hui, le sujet du moment, c'est plutôt ça. C'est la migration d'applications version précédente vers iOS 7, qui représente un peu le gros sujet, je pense, pour moi et sans doute pour beaucoup de développeurs, parce que le changement est tel que maintenant, ça va être plus compliqué qu'avant d'être en mesure de faire cohabiter différentes versions pour différents OS. Mmh. C'était un des points forts en fait, d'Apple jusqu'à présent, par rapport à l'écosystème Android qui est beaucoup plus complexe parce qu'il y a un nombre de devices qui est tel que c'est très, très lourd en fait, d'être en mesure d'avoir une interface commune pour différentes plateformes, c'est même impossible en fait. Et sur iOS, jusqu'à présent, pour moi, c'était une problématique qui était un petit peu différente parce que Apple maîtrisait complètement en fait son parc de devices et du coup, avec en plus des petites techniques bien pensé, c'était pas très compliqué de maintenir une application pour les différentes versions du téléphone. Aujourd'hui, maintenant, il y a une composante nouvelle, c'est qu'il va falloir être en mesure d'adapter une application pour iOS 6 et iOS 7, sachant que les éléments graphiques sont radicalement complètement différents. C'est pas un sujet qui est forcément simple. Et ça va représenter, je pense, beaucoup, beaucoup de travail pour beaucoup de sociétés dans les prochains mois, pour être en mesure de faire cette migration. Donc mon sujet pour moi du moment, c'est ça. Et puis dans les API effectivement qui ont été ajoutées, il y a un certain nombre de choses effectivement un petit peu sympa dans iOS 7 pour les développeurs. Il y a des centaines de nouvelles API, donc c'est vrai que il y a des petites
Tu vas
choses
rien
toujours à
nous
cause.
dire, tu vas.
Non, si, si, il y a des choses. Par exemple, il y a une fonctionnalité qui s'appelle iBacon.
Ouais.
iBacon, alors, c'est pas de la
Oh.
nourriture.
Dommage. Ça a l'air sympa.
C'est en fait une fonctionnalité qui va permettre comment dire, de la détection de devices dans des zones de proximité réduites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être en mesure de géolocaliser un device, on utilise le capteur GPS. Le capteur GPS a un niveau de précision qui ne descend pas en dessous d'une certaine distance.
Un
Et
mètre à peu près, non? Quelque chose comme ça?
bon, ça dépend en fonction de certaines conditions, mais en tout cas, ce n'est pas fait pour fonctionner à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple.
Ouais.
Et iBeacon, en fait, ça va vous permettre en fait, de pouvoir détecter la présence d'un téléphone dans une proximité réduite. Donc l'usage typique, c'est on est avec son téléphone en fait dans un musée, on se rapproche d'une toile, et tout d'un coup, bah, le téléphone va comprendre qu'on est en fait à 1 mètre ou 2 mètres de la Joconde, et du coup, il va être en mesure d'afficher des informations contextualisées, puisque la distance aura été détectée.
D'accord, ah oui, j'avais travaillé sur justement un scénario d'application pour musée et donc tester la reconnaissance, la réalité augmentée. Ça marchait pas bien parce que dans des conditions de luminosité d'un musée, c'est pas toujours l'idéal. Et puis parfois, tu as des toiles d'un même artiste qui se ressemblent un petit peu. Et pareil, j'arrivais pas à les distinguer. Et donc j'étais parti plutôt sur l'ajout de flashcode ou de système de ce type-là, quoi, de représentation suffisamment contrastée pour pouvoir générer de la réalité augmentée. Mais là, si on peut détecter la position du smartphone, on s'embête même plus avec le capteur photo, on peut directement afficher le contenu thématique, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus fiable aussi.
Ça permet des usages, effectivement, à nouveau, qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Tu vois, ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, on rajoute un nouveau capteur, et tout de suite, on a des usages qui émergent immédiatement, en fait. Et ces usages, sont de nature à révolutionner complètement, en fait, l'utilisation qu'on peut avoir du téléphone. Typiquement, avec ce type de fonctionnalité, on peut imaginer de rentrer dans un magasin et puis se rapprocher simplement de la caisse, et puis automatiquement, gérer complètement la transaction sans faire quasiment aucune action.
Ouais.
Donc c'est le type de fonctionnalité qui laisse la porte ouverte à un tas de possibilités et on voit tout de suite que l'univers enfin le potentiel en tout cas de cette nouveauté est extrêmement vaste et
Bon, moi j'avais des petites idées hein, d'ajout, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est la lecture d'empreintes digitales sur l'écran. Pour pouvoir déverrouiller son téléphone sans faire de code, ou alors pour pouvoir enfin verrouiller son téléphone pour ceux qui ont toujours eu la flemme de mettre un code, intégrer le capteur digital sur l'écran pour ne pas avoir à rajouter un élément en dessous. Après, tu as aussi le domaine du médical ou du sportif qui marche très très fort en ce moment avec les téléphones. On a tous, que ce soit sur Apple ou Android, on a des applications qui permettent de suivre nos exploits sportifs de footing ou des accompagnements à faire des pompes, des abdos, etc. Mais il existe aussi des capteurs qui peuvent analyser l'haleine pour détecter des maladies, par exemple, ou des problèmes de santé. Ça pourrait très bien être ajouté dans un téléphone, ce genre de choses.
clairement, j'ai entendu parler d'un projet justement qui permet.
Les pulsations aussi,
Ouais,
ouais.
il y a enfin le domaine médical. Je crois qu'il y a le projet en question dont je parlais est en mesure d'établir un diagnostic, je crois, sur les capacités visuelles de quelqu'un. Alors je ne sais plus s'il y a un capteur spécifique qui a été rajouté ou pas, mais clairement, hein, ça fait partie des évolutions qui pour moi sont complètement naturelles. Et c'est pour ça que je suis impatient de voir ce qu'Apple va proposer en septembre. J'espère qu'il y aura des nouveaux capteurs. A priori, on parle d'un capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte, son domaine, semble plutôt lié à la sécurité. Je suis pas sûr que ce soit forcément le sujet le plus passionnant, mais il y
Est-ce
aura
que
peut-être
ça ne
d'autres
pourrait
surprises.
pas enfin nous débarrasser de ces captchas infâmes qui nous obligent à recopier des séries de lettres bizarres et de numéros pour pouvoir envoyer un formulaire?
Oui, surtout que moi, je ne sais pas si tu es comme moi, mais à chaque fois, j'arrive jamais à lire
les lettres. Oui, je saisis trop
les
fois,
chiffres.
voire je fais appel à l'aide de l'assistance pour les handicapés pour avoir la version audio parce que j'en peux plus
Mais c'est un peu
de ces
paradoxal parce
lettres.
que en complément des lettres, justement, il y a le petit icône qui permet d'avoir la lecture audio. Et c'est complètement paradoxal. En fait, c'est pour moi la fonctionnalité complètement anti-ergonomique, totale, où on pénalise l'utilisateur à cause d'un certain nombre de fraudeurs et du coup on lui complexifie sa vie. Je pense qu'on ne devrait pas être amené à pénaliser un utilisateur pour aucune raison, dans aucun contexte
Là, oui,
possible.
c'est clairement, c'est pour ça que j'imaginais ça, parce que là, on a vraiment un problème, là. Les CAPTCHA, c'est vraiment un cache-misère temporaire qui nous permet de résoudre un problème donné à un moment donné, mais il faudrait pas que ça continue longtemps, parce que ça devient vraiment insupportable. Donc si Apple peut nous délivrer de ça avec un petit logiciel dédié pour tout système d'exploitation qui permet en Bluetooth ou via USB ou je sais pas quoi de facilement débloquer un formulaire, par exemple, ce serait pratique.
On peut imaginer effectivement que le capteur d'empreinte soit
Juste
accessible à
derrière
travers
ça.
les applications et que du coup à travers différentes API, que chaque développeur puisse effectivement en faire l'usage qu'il veut au sein de son application. Mais pour moi, c'est pas la nouveauté qui serait la plus passionnante, quoi. Tout ce qui touche à la sécurité, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy,
Ah non, ouais, non.
hein. Bon, moi j'aurais plus d'attentes au niveau de, je sais pas, de capteurs, de NFC qui permettent des usages un peu plus sympathique, quoi.
Et alors, ok. Et tu sais qu'il y a les Google Glass qui sortent là, en octobre, il me semble. Comment Apple va pouvoir garder l'attention des fans de high-tech alors que les Google Glass vont sortir? Est-ce que ce serait pas mieux de garder profil bas encore pendant peut-être un an ou deux, le temps que le phénomène des Google Glass peut-être commence à se tasser un petit peu? Et parce que là, s'ils sortent un iPhone 5S et que Google sort la Google Glass, à mon avis, il y a pas match là. Ils vont se faire complètement éclipser, quoi.
Alors, les Google Glass, c'est vrai que c'est un produit qui est assez étonnant, mais je ne suis pas encore convaincu que le produit soit arrivé suffisamment en maturité. Aujourd'hui, l'usage qu'on peut en faire est assez restreint, parce que pour que ce soit vraiment efficace, il faut que les lunettes soient couplées en Bluetooth à un téléphone, parce que le matériel encore n'est pas suffisamment évolué. Et du coup, c'est vrai que. Je pense que c'est peut-être encore un peu tôt, mais dans quelques années, ce
Ça va être
sera.
incontournable.
En tout cas, on peut imaginer des usages à nouveau qui vont être complètement révolutionnaires. D'être en mesure d'augmenter sa vision avec des informations qui peuvent nous aider dans notre quotidien, c'est quand même quelque chose
Je
d'assez
pense qu'on
fabuleux, quoi.
sortira plus en nos lunettes sans être très mal à l'aise dans quelques années, parce que tu imagines déjà la géolocalisation. C'est vrai que moi, combien de fois je vais à des rendez-vous, j'ai rien préparé, je sais même pas où c'est, parce que je sais très bien que j'ai suffisamment de batterie, j'ai mon téléphone, je vais forcément savoir rapidement calculer un itinéraire qui sera parfait. Imaginons la même chose sur les lunettes avec en plus des flèches ou des indications qui se rajoutent en réalité augmentée du coup par-dessus la vision pour réellement être visible dans le champ de vision. Des informations sur les menus, les plats des restaurants. Pourquoi pas encore plus fou, comme tout à l'heure tu me disais, la capacité de voir à l'intérieur de bâtiments ou d'accéder à des vues de capteurs ou de caméras qui sont placées à d'autres endroits que l'endroit où on se trouve. Et puis bon, les usages sont presque infinis, là. On révolutionne tellement de choses, c'est incroyable.
Oui, alors après, de là à ce que quelqu'un qui porte pas de lunettes habituellement se mette tout d'un coup à avoir ses Google Glass en permanence, je sais pas, ça reste encore à démontrer, mais c'est sûr que pour certains secteurs d'activité, ce sera sans doute révolutionnaire. Je pense par exemple à un chirurgien qui pourra avoir une assistance au moment d'une opération. Bah, bon, ils sont sans doute déjà équipés de matériel équivalent, mais c'est vrai que en tout cas, ça nous promet quand même des choses assez sympas, quoi.
Ok, alors bah écoute, je crois qu'on en est à 45 minutes de podcast. Il est minuit passé là, je sais pas quelle heure il est. Voilà. Est-ce que tu as une dernière petite chose à ajouter, à partager de ton expérience récente avec les appareils Apple, l'univers Apple?
Bah écoute, ce que je peux juste rajouter, c'est que moi, en tant que développeur, je trouve vraiment que c'est vraiment passionnant d'avoir la chance de pouvoir développer sur ces plateformes, que ce soit iPhone ou Android d'ailleurs, qui a vraiment une matière extrêmement dense et qu'en termes de créativité, il y a peu de limites et c'est ça qui est assez étonnant. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, enfin, j'aurais pas du tout imaginé qu'on puisse avoir un potentiel pareil en fait.
Oui. Et t'as l'impression d'être qu'on est qu'au début en plus, hein.
Alors, oui, clairement, je suis convaincu qu'on est au tout début. Hein. Malgré le fait que le mobile, ça fait déjà un petit moment. J'ai commencé à développer sur Palm il y a plus de 10 ans. Et
Je me rappelle de tes petits logiciels d'échecs.
à l'époque, c'était.
C'était super, hein. C'était.
Ouais, et puis je me souviens, j'avais réussi en fait à me procurer le seul téléphone infrarouge qui existait à l'époque. Avec la connexion infrarouge du Palm, je me connectais au téléphone et j'avais réussi après des heures de manipulation et de configuration à envoyer un simple mail. Et j'étais super fier et les gens autour de moi me regardaient comme un extraterrestre. Maintenant, imaginez que on se rend même plus compte, mais avoir une connexion en plus. 3G, 4G bientôt, où on peut regarder des vidéos en streaming sur son téléphone, télécharger des jeux de 100 mégas en quelques minutes, enfin, c'est complètement fou.
Ou se retrouver avec un message de ton opérateur qui te dit votre forfait de 3 gigas est bientôt dépassé et te rendre compte qu'en fait c'est ton système d'exploitation qui a transféré 600 mégas de données en une heure sans te prévenir. Ça c'était sur Android. Mais même dans le train, tu vois des mamies avec des iPads, c'est incroyable. On a eu la chance de vivre quand même quelque chose d'assez incroyable avec la téléphonie. C'est une vraie étape, à mon avis, qui marquera l'histoire quand même, l'Internet et la téléphonie mobile. Ça a été quand même quelque chose d'assez incroyable. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on va tout droit vers ce qu'on a déjà pu voir dans les films de science-fiction, les Johnny Mnemonic, Matrix et compagnie. D'ici quelques années, on aura des devantures de magasins qui nous reconnaîtront. Grâce à du NFC, à du RFID ou je ne sais quoi, un petit champ magnétique personnel qui permettra de s'identifier. On va avoir des trucs, on va vivre des choses sympas encore, je pense.
Oui, on va avoir des périodes assez marrantes. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est déjà très très passionnant. En tant que développeur, si j'ai juste une chose à ajouter, c'est que je m'éclate vraiment, que le potentiel, il est vraiment gigantesque. Et puis c'est quand même fou aussi d'imaginer qu'un développeur, tranquillement de chez lui, peut déployer une application sur un store qui va cibler 80 pays. Il y a 10 ans en arrière, un développeur qui voulait faire de l'édition, il n'y avait pas beaucoup de choix, c'était l'impression de CD-ROM. L'impression de CD-ROM, évidemment, ça coûtait extrêmement cher. Et puis, en cas de problème, t'imagines, en cas de bug, faire rapatrier les 1000 CD-ROM que tu as imprimés pour un budget gigantesque et les renvoyer après. Enfin, il fallait des moyens juste énormes.
Ouais.
Et aujourd'hui, tu peux faire le difficile, tu peux dire, tiens, non, bah, tiens, j'ai pas envie de publier dans tel ou tel pays. Et en fait, c'est juste fabuleux. Tu peux cibler 80 pays comme ça pour tes applications. Enfin, je dis 80, mais c'est peut-être encore augmenté. Enfin, je trouve ça complètement, complètement incroyable. Et effectivement, on voit en plus que le marché est devenu extrêmement important parce que pendant la WWDC, les chiffres qui ont été annoncés, je crois que c'est à peu près 10 milliards de dollars reversés aux développeurs, si je dis pas de bêtises. L'appareil, ça représente un chiffre complètement astronomique. Et donc, c'est plus complètement inimaginable d'imaginer que des développeurs maintenant puissent vivre en fait de leurs applications et que ça représente
Un vrai
un
business
vrai business
maintenant,
maintenant pour le petit développeur indépendant qui fait sa petite application tranquillement chez lui et puis qui arrive à en vivre. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications, hein, on l'a dit tout à l'heure, il y a 50 milliards de téléchargements, ça fait ou si beaucoup, beaucoup d'applications, la concurrence est féroce. Mais en tout cas, il faut juste remettre en perspective le fait qu'il y a 10 ans en arrière, on était très, très, très loin de tout ça et que ça va encore bouger. Et du coup, bah, c'est juste top. En tant que développeur, il n'y a jamais eu autant de possibilités. Il y a vraiment de quoi faire.
Bon, et ben écoute, au lit tout le monde, y compris vous les auditeurs, là, il est tard, il faut aller se coucher. Vous pouvez nous insulter sur mon blog pour ne pas avoir parlé de typo 3. Et sinon, n'hésitez pas à réagir. Et puis Lionel, je pense qu'on se refera ça à l'improviste, un peu comme aujourd'hui, dès que possible. Et surtout, ce serait bien qu'on puisse faire un débrief de la prochaine conférence d'Apple à chaud. Pour commenter un petit peu ce qui est sorti, puisque là on a une attente, on en a pas mal parlé, ce serait intéressant de débriefer à chaud après la conférence.
Bah écoute, avec plaisir, voilà. Cyril, et puis merci de m'avoir reçu.